Mondial Sport sur RFI. Christophe Jousset.
Bonsoir, pas de finale en direct ce soir sur RFI, donc pas de risque de voir Mondial Sport céder sa place à l'antenne pour cause de tir au but, c'est ce qui s'est passé hier. Voici donc le sommaire et nous nous y tiendrons. Au lendemain du sacre du FC Barcelone, nous reviendrons avec François David sur le 26e titre de champion d'Espagne décroché grâce à un nouveau but de Lionel Messi. En Angleterre, Agüero marque à Burnley et Manchester City reste leader avec un point d'avance sur Liverpool à deux journées de la fin. Philippe Auclair sera en direct de Londres et nous donnera aussi les dernières nouvelles d'Eric Bailly, l'ivoirien de Manchester United, blessé aujourd'hui au genou. Champion de France, c'est bien, mais c'est insuffisant quand on s'appelle Paris Saint-Germain. Au lendemain de la défaite en finale de la Coupe de France contre le Stade Rennais, Hugo Moissonnier dressera le bilan de la saison ratée du PSG. Le Cameroun, champion d'Afrique aussi chez les moins de 17 ans. En finale de la CAN ce dimanche à Dar es Salaam, les Lionceaux ont battu la Guinée au tir au but. Tiernoya Diallo était sur place. À suivre encore, le reportage de Pascal Mwangala à Rades où le tout-puissant Mazembe s'est incliné 1-0 devant l'Espérance de Tunis. C'était ce samedi, demi-finale aller de la Ligue des Champions. C'est Mondial Sport, préparé avec Cédric De Oliveira et Adrien Toureau. Joé Fonferrier est en régie également. C'est parti pour 30 minutes. Et pour commencer, allons tout de suite en Angleterre, où l'on est dans le Money Time de la Première Ligue. Plus que deux journées à jouer et toujours un petit point entre le leader Manchester United et Manchester City, pardon, et Liverpool. Bonsoir Philippe Auclair.
Et bonsoir Christophe, quel lapsus.
Oui, United est un peu plus loin, on va en reparler.
Légèrement, oui, en effet.
Alors, Liverpool a joué dès vendredi. Liverpool a chicoté la lanterne rouge Huddersfield 5-0. Rien que des buts africains, deux pour Mané, deux pour Salah, un pour Naby Keita. Pour reprendre la tête et son point d'avance, Manchester City devait s'imposer ce dimanche à Burnley. C'est ce qui a été fait, mais la victoire est courte, Philippe.
Oui, elle est courte, elle était un petit peu compliquée. La première vraie grosse occasion du match, en fait, même devrait être pour Burnley. Ensuite, un but de Kun Agüero. Encore une fois, Kun Agüero, c'est un petit peu l'homme des buts, des titres, je dirais, pour Manchester City. Vous vous souvenez sans doute de la fameuse, du fameux cri de ce commentateur anglais, Agüero, 94e minute pour le premier but de le premier titre de Manchester City de l'ère, de la nouvelle ère de Manchester City. Là, ce but, un but d'Oracro, c'est pas l'un de ses plus beaux, de ses 230 qu'il a marqué pour Manchester City. En fait, le ballon a passé la ligne, on a calculé, de 29,5 mm. Autant dire qu'il y a encore, avant l'utilisation du replay et sur la ligne de but, eh bien, on aurait sans doute pas accordé ce but, je pense. Mais là, il est entré et donc ils ont fait l'essentiel. Ils se sont fait un petit peu peur jusqu'à la fin, alors qu'ils se sont créés énormément d'occasions, mais sait-on jamais. Ils ont tenu et maintenant ils sont, allez, on va dire qu'ils ont deux doigts sur le trophée, on va dire. C'était sans doute le dernier match qu'ils doivent disputer, les Citizens, les champions, en qui on voyait un véritable danger. Là, la route commence à être un petit peu plus claire pour eux.
Alors ça, c'est la lutte pour le titre qui va se poursuivre peut-être jusqu'au bout. Mais derrière, Philippe, on a eu droit à une journée bizarre où pas un club n'a gagné. Je résume, défaite de Tottenham, le troisième dans son nouveau stade, 1-0 contre West Ham. Déroute du cinquième, Arsenal à Leicester, 3-0. Et alors, match nul entre le sixième et le quatrième, entre Manchester United et Chelsea, un but partout. C'était un match, musclé, hein.
Oui, on va dire ça comme ça. Il y avait de l'engagement, ce qui était normal. Manchester United devait l'emporter en raison de sa différence de but qui n'est pas franchement fantastique comparée à celle de Chelsea et d'Arsenal. Bon, Tottenham maintenant, même s'ils ont perdu contre West Ham, première défaite dans leur nouveau stade, vu leur calendrier, et même si les choses peuvent être un petit peu compliquées en Ligue des Champions, allez savoir qu'on impacte que pour avoir une élimination face à l'Ajax, par exemple. Mm-hmm. Mais bon, a priori, Tottenham, devant son public, a le meilleur calendrier, devrait s'en tirer. Mais par contre, pour Manchester United, l'emporter aujourd'hui, c'était essentiel. Ils ont fait le plus difficile, pensait-on, en ouvrant la marque par Juan Mata. Un très joli but, d'ailleurs, avec une très jolie combinaison entre Luke Shaw, Romelu Lukaku, Luke Shaw, et puis donc le Juan Mata qu'on retrouvait dans le 11 de départ de Ole Gunnar Solskjaer. Mais ensuite, les choses ont moins bien tourné. Une nouvelle erreur de David De Gea, il y en a pas mal en ce moment, dont a profité Marcos Alonso, beaucoup plus alerte que les défenseurs de Manchester United. Et voilà le résultat, hein, partout. C'est un résultat qui satisfera Chelsea, mais qui ne satisfera certainement pas Manchester United. Mais Manchester United, je vous dirais qu'il y a d'autres problèmes également, parce que c'était un match, de toute façon, on savait qu'ils ne sont pas favoris pour terminer dans le top 4, mais en plus de ça, il y avait des changements qui ont été opérés, et on a assisté, bon, malheureusement, à une blessure qu'on pense grave.
Alors, Eric Bailly, justement, avant de vous laisser, on va prendre des nouvelles d'Eric Bailly, le défenseur ivoirien, qui faisait son retour dans le 11 de départ de Manchester United. Donc, blessure au genou, à l'approche de la CAN, évidemment, tous les Ivoiriens et tous ceux qui suivent le foot africain se posent la question, qu'est-ce que vous avez comme information?
Ben, elles sont pas rassurantes, et elles sont basées sur des déclarations de Ole Gunnar Solskjaer lui-même, et également des informations de nos collègues du Manchester Evening News, qui généralement sont très très bien informés de ce qui se passe dans leur club. En l'occurrence, fin de saison, donc avec le club, c'est une très très grosse torsion du genou. On a vu également la douleur, ça sent pas bon. Alors, on va évidemment être très très prudent, mais nous sommes malgré tout quasiment au début du mois de mai. La CAN, elle va arriver très très vite. Une blessure ligamentaire, comme ça y ressemble, ça prend des semaines, parfois de longues semaines à se résorber. Donc on va attendre des nouvelles. On va surtout pas dire non, la CAN, il est forfait. On va pas dire ça.
Non, parce que
saison avec son club, c'est terminé. Mais espérons, on croise les doigts que les blessures soient moins graves que ce que l'on pense en ce moment.
On l'espère tous, et l'on sait que en cas de blessure au genou, au ligament, il faut attendre que l'hématome soit un peu commence à se résorber pour pouvoir faire un diagnostic. Donc on suit ça dans les prochains jours. Merci beaucoup, Philippe Auclair.
Merci à vous.
Revenons maintenant sur la nouvelle désillusion du Paris Saint-Germain. Depuis 2015, le club gagnait la Coupe de France tous les ans, mais cette saison 2018-2019 est décidément une saison ratée. Après Manchester United en Ligue des Champions, après Guingamp en Coupe de la Ligue, c'est le Stade Rennais, un club habitué, sevré depuis près d'un demi-siècle de trophées, qui a privé le PSG de trophées, justement, à l'issue d'une finale où les Parisiens ont pourtant mené 2-0. Hugo Moissonnier était au Stade de France.
Mesdames, messieurs, de la Coupe de France, l'équipe du Stade.
Personne n'aurait imaginé Rennes soulever la Coupe de France après les premières minutes de la finale. Petit retour en arrière, au bout d'une demi-heure, le PSG maîtrise et mène 2-0, mais Kimpembe marque contre son camp en fin de première période. Au retour des vestiaires, la soirée tourne au vinaigre pour les Parisiens. Le Mozambicain Mecher égalise, s'en suivent des occasions manquées, l'expulsion de Mbappé en fin de partie et un tir au but dans les nuages, celui de Nkunku. Les joueurs du PSG ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, à en croire leur entraîneur Thomas Tuchel.
Nous ne sommes pas attentifs. C'est toujours possible de perdre un match ou laisser l'autre sentir. Oh, c'est possible ici. Parce que c'était possible de fermer 3-0, 4-0 et fermer. Non, on ne fait pas ça.
Hier, le PSG aura été fidèle à ce qu'il montre depuis des mois. Fin 2018, le club semblait sur la bonne voie. En Ligue 1 comme en Europe, début 2019, le château de cartes s'est effondré. Entre la nouvelle blessure de Neymar et un nouveau fiasco en Ligue des Champions, l'inexplicable échec en Coupe de la Ligue face à Guingamp oblige également le Paris Saint-Germain à remporter la Coupe de France hier pour sauver les meubles. Il se contente finalement d'un championnat facilement remporté et signe sa plus mauvaise saison depuis 2011 et le début de l'ère qatarienne. Eric Rabessandratana, ancien capitaine du club.
C'est la pire. Vous devez gagner tout, vous devez passer contre Manchester, vous ne passez pas. C'est pas une question simplement parce que Neymar n'était pas là. Là, il y a eu un problème de collectif et il y a eu plein de choses. Maintenant, il faut y faire les bons changements. Il faut pas changer et acheter des joueurs très chers pour. Il faut mettre des joueurs qui sont capables de répondre présent, d'avoir l'esprit pour défendre le maillot et défendre le club.
Une autre affaire est venue polluer la saison du PSG, le conflit entre le club et Adrien Rabiot, violemment placardisé pour avoir refusé de prolonger son contrat. L'an passé, c'était Atem Ben Arfa qui quittait Paris après avoir été mis de côté sans ménagement. Ben Arfa en larmes après sa victoire en Coupe de France hier sous les couleurs de Rennes, tout un symbole.
Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Moi, je parle pas du PSG parce que le club du PSG, je l'aime beaucoup. Mais je parle plutôt de ceux qui gouvernent tout ça parce qu'un jour, Adrien Rabiot va revenir avec une équipe et il va leur faire mal parce que c'est la vie. Quand tu donnes le mauvais, tu reçois le mauvais.
Mauvais également, le geste de Neymar après le match. Hier, la vedette brésilienne filmée en train de pousser un spectateur. Une polémique de plus pour une fin de saison bien morose à Paris.
Hugo Moissonnier, et pendant que le PSG, déjà champion de France, était occupé par la finale de la Coupe, eh bien les autres clubs de Ligue 1 disputaient la 34e journée. Aujourd'hui, Lille a battu Nîmes 5-0 avec le 20e but en championnat de l'Ivoirien Nicolas Pépé. Et Lille, deuxième du classement, conserve 6 points d'avance sur Lyon, vainqueur vendredi à Bordeaux, 3-2. Saint-Etienne, autre match du jour. Saint-Etienne a battu Toulouse 2-0 et conforté sa 4e place. Car derrière, Marseille, ça c'était il y a quelques minutes, Marseille a été battu au Vélodrome par Nantes, 2-1, et l'OM dit presque adieu à la Ligue des Champions. À noter la victoire de Nice sur Guingamp, 3-0, un triplé de Youssef Attal, l'Algérien, qui est, je vous le rappelle, un défenseur. Pendant que le PSG échouait en finale de la Coupe hier soir, eh bien le FC Barcelone devenait champion d'Espagne. Victoire 1-0 sur Levante au Camp Nou. Sous vos yeux, François David, bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Alors soyons honnêtes, le Barça a largement dominé cette saison et ce 26e titre, c'était juste une question de temps. Est-ce qu'il a été bien fêté quand même?
Je peux vous dire que oui, Christophe, il a été très bien fêté en attendant effectivement le match contre Liverpool qui sera mercredi prochain, en route peut-être pour un triplé, un troisième triplé en quelques saisons, après 2009 sous Pep Guardiola et après 2011 aussi avec Guardiola et 2015 aussi avec Luis Enrique, ce qui sera un quatrième triplé. Alors juste quelques réactions de la presse, la une de Sport, la Liga de Messi, effectivement Messi a été l'acteur incontournable de cette de ce nouveau titre, et de Mundo Deportivo, l'autre quotidien régional avec un sub Champions, qui veut dire campeones en catalan, avec la même photo. Celle de Léo Messi soulevant la coupe. D'ailleurs, je ne sais pas si on a pu l'entendre quand on n'était pas au stade, mais Messi qui a soulevé la coupe de champion sur la musique du groupe ivoirien Magic System. Mm-hmm. Un petit clin d'œil assez sympa, mais toute la presse disait que c'est la victoire d'un groupe, avant tout la victoire d'Ernesto Valverde aussi, l'entraîneur assez décrié à Barcelone, peut-être moins depuis quelques heures, la victoire d'un groupe compact, peut-être moins brillant que sous Pep Guardiola, mais un groupe qui confirme une deuxième année que c'est la meilleure équipe d'Espagne, l'équipe la plus régulière surtout. Alors aussi bien Sport que Mundo Deportivo mettent en valeur ce chiffre, d'ailleurs repris sur le t-shirt des vainqueurs que les joueurs ont porté tout de suite après le coup de sifflet final, 8-11, c'est-à-dire 8 titres en 11 saisons, c'est-à-dire l'hégémonie qu'a le Barça sur la Liga depuis plus de 10 ans, et les quotidiens régionaux qui mettent en valeur surtout la structure de cette équipe avec des joueurs comme Ter Stegen, Piqué, Jordi Alba, Rakitic, Luis Suarez et bien sûr Lionel Messi, on va y revenir, et des joueurs qui ont bien fêté leur victoire pour penser désormais au match contre Liverpool mercredi prochain en Ligue des Champions.
Ouais, merci François David. Oui, effectivement, Messi, on y reviendra aussi dans Radio Foot. Messi qui a été l'unique buteur de la soirée. 10e titre pour lui avec le Barça, 10e titre de champion. Et son premier en tant que capitaine. Hier, l'Atlético a battu Valladolid 1-0. Les Colchoneros sont peinés, à l'arrivée, ils augmentent leur avance sur le Real Madrid qui a été battu tout à l'heure sur la pelouse du Rayo Vallecano. 1-0. On prend maintenant la direction de l'Afrique, et pourtant on va encore parler du Barça. On va s'intéresser à l'un des nombreux projets du club catalan hors d'Espagne, la création d'une académie au Togo. Objectif, diffuser les méthodes et les techniques d'entraînement du FC Barcelone. Certains membres du club étaient présents cette semaine à Lomé pour organiser un stage de détection, un événement qui a permis de confirmer l'immense popularité du Barça chez les Togolais. Le reportage de Comelan et Clou.
Venu à Lomé pour entamer le processus d'implantation de l'Académie de football du Barça, Georges Caoto, entraîneur, a pu mesurer la popularité du club catalan au Togo.
Dans la rue, on peut trouver beaucoup de personnes avec le maillot de Barça. On peut dire qu'ici à Togo, nous avons beaucoup de Barcelona fans.
Malgré le coût élevé du stage, 325 000 francs CFA pour 5 jours, une centaine de jeunes a répondu à l'appel des formateurs espagnols. La moitié de l'effectif a été sponsorisée par la Fédération Togolaise de football. Colonel Guiacovi, président de la dite fédération.
Nous avons sponsorisé plus de 50 jeunes. La fédération a fait sa part aussi en privilégiant certains enfants démunis parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir participer directement à ce stage. Notre objectif, c'était que beaucoup de Togolais, beaucoup d'enfants puissent vraiment bénéficier de ce stage particulier.
Au sortir de cette formation, les jeunes participants se sont montrés enthousiastes.
Très bien, c'était très bien parce qu'on a bien joué, on s'est bien amusé.
On a appris de nouvelles choses. Libérer les espaces, les dribbles, le jeu.
On a aimé les dribbles, façon de dribbler, pas trop de passes et créer de l'espace et frapper.
Votre espoir, c'est de jouer comme Messi ?
Oui, oui, est dépassé, merci.
Même satisfaction des entraîneurs togolais impliqués dans le projet.
Il y a des exercices spécifiques à chaque thème, donc c'est des exercices que nous n'avons jamais vus. Ça nous a permis d'apprendre quelque chose pour notre propre gouverne et notre propre cursus.
Donc on a vu comment est-ce qu'on peut préparer les enfants à la base pour que demain ils puissent jouer comme le Barça. Présente un beau football. J'avoue que j'apprécie bien le jeu que présente Barcelone.
Partenaire officiel du FC Barcelone au Togo, M. Claude Emmanuel Ajavon attend du projet une amélioration du niveau du football togolais.
Il s'agit d'implanter les méthodes de jeu du FC Barcelone, qui ont déjà fait leurs preuves, n'est-ce pas, puisque le Barça est un club historique, est un club légendaire, c'est un des plus grands clubs de l'histoire. Le Togo a l'insigne honneur, je dirais, au niveau footballistiquement parlant, de pouvoir héberger à partir de maintenant ce club qui va permettre de former toute une génération, voire même plusieurs générations de joueuses et des joueurs qui amélioreront le niveau des ligues, n'est-ce pas, des championnats locaux, voire même des équipes de jeunes au niveau national.
Les premiers tests de recrutement pour l'académie du FC Barcelone de Lomé commencent en juin prochain. Les heureux élus auront à débourser quelques 650 000 francs CFA par an, comme l'an écoule Lomé RFI.
Allez, retour en Europe et en Espagne pour évoquer le cas de Valence qui jouera jeudi en demi-finale de la Ligue Europa contre Arsenal. Le club vainqueur de la Coupe de l'UEFA en 2004 est à la recherche d'un nouveau trophée continental et il compte bien sûr son attaquant français, Kevin Gamero, pour l'emporter. Lui qui commence à être habitué à soulever ce trophée, il l'a gagné 3 fois avec Séville, 1 fois avec l'Atlético. Alors Valence a connu un début de saison poussif, mais aujourd'hui, avec son numéro 9, eh bien, il commence à rêver de gloire. Le reportage de Pierre Chaperon, notre correspondant à Madrid.
Affûté et déterminé, alors qu'il fête son 32e anniversaire dans moins de 2 semaines, Kevin Gamero revit à Valence. Acheté à l'Atlético de Madrid, quelques 16 millions d'euros en août dernier, le Français en est à 5 buts en 30 matchs en Liga et retrouve peu à peu son état de forme.
Je pense que les gens ont plus confiance en moi aussi dans cette équipe. Maintenant, on essaye de faire le maximum. J'ai un peu plus d'expérience qu'avant. Je vais avoir 32 ans. Je connais un peu ces moments-là. Il faut être présent au bon moment et savoir répondre présent dans des gros matchs. Maintenant, je travaille pour l'équipe et on essaye de jouer en équipe pour gagner ces matchs-là. C'est là où on est le plus fort.
Alors oui, si Valence a perdu dans les dernières minutes contre Eibar 1-0 pour le compte de la 35e journée de Liga, le parcours actuel du club n'est pas comparable au début de saison en championnat. Sur les 24 derniers matchs, toutes compétitions confondues, Valence s'est imposé à 14 reprises pour 7 matchs nuls et 3 défaites. Loin du départ poussif où, sur les 10 premiers matchs de championnat, le club méditerranéen a signé 8 matchs nuls et un revers, attendant la 7e journée contre la Real Sociedad pour remporter son premier succès de la saison. Une entame qui a fragilisé un temps l'entraîneur valencien Marcelino Garcia Toral, mais un début tortueux qu'explique facilement le Français.
Je pense qu'il y a beaucoup de changements et beaucoup de nouveaux joueurs. Mais après, la formule a pris un peu plus de temps pour que ça fonctionne. Maintenant, on n'a pas perdu beaucoup de matchs.
Valence se prépare à une fin de saison haletante. Finale de Coupe d'Espagne contre Barcelone fin mai. Course pour une qualification pour la Ligue des Champions via le championnat, mais aussi via la Ligue Europa où le club affronte en demi-finale ce jeudi Arsenal. Une Ligue Europa que l'ancien Parisien connaît bien. Lui qui l'a gagné 4 fois, 3 avec Séville et l'an passé avec l'Atlético de Madrid.
C'est une compétition que je connais très bien, très intéressante, où tu vis des très bons moments. Maintenant, on va voir ce qui se passe, mais on va jouer à fond, ça c'est sûr.
Son expérience dans la compétition sera très précieuse face à Arsenal, de la donner des conseils à ses coéquipiers. Il n'y a qu'un pas.
De tout donner, de ne pas se prendre la tête. Des demi-finales de Coupe d'Europe, on ne les joue pas tous les ans. Il faut donner maximum et rien regretter à la fin.
Kevin Gamero et Valence visent un titre pour renouer avec le succès. Une nouvelle couronne européenne qui consacrerait l'ancien Parisien et l'Orienté. Avec 5 Ligue Europa, il deviendrait le co-détenteur du nombre de victoires dans la compétition aux côtés de son coéquipier à Séville, José Antonio Reyes. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Le championnat d'Italie, Naples qui obtient officiellement sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions grâce à son succès aujourd'hui à Frosinone et 2-0 et à la défaite en même temps de l'AC Milan sur le terrain du Torino 2-0. En Allemagne, le Bayern Munich a été tenu en échec aujourd'hui à Nuremberg, un partout. Et du coup, eh bien voilà, le Borussia Dortmund remis dans la course au titre puisque le Borussia Dortmund a certes été battu 4-2 à domicile hier, mais il il n'y a que 2 points d'écart à 3 journées de la fin entre ces deux équipes. Le 4e de la Bundesliga, c'est l'Eintracht Francfort, qui compte dans ses rangs un certain Simon Fallet, Cédric De Oliveira. Bonsoir.
Bonsoir Christophe.
Cédric De Oliveira, vous avez joint donc Simon Fallet à propos de son club, certes, mais aussi de sa toute nouvelle titularisation, collaboration, disons, avec l'équipe nationale de Guinée.
Oui, effectivement, il a un parcours sinueux, hein, Simon Fallet. C'est un défenseur central qui peut jouer aussi latéral. Il a fait ses débuts en France à Lorient avant de connaître plusieurs clubs. Et donc, l'Eintracht Francfort qui vient de le recruter, enfin, en tout cas, il y a presque 2 ans, un club où Fallet s'épanouit. Il va notamment disputer les demi-finales de la Ligue Europa cette semaine face à Chelsea. En tout cas, le match aller est prévu ce jeudi en Allemagne. Simon Fallet, vous l'avez dit, qui a fait ses débuts internationaux cette saison avec la Guinée. La première sélection, c'était le 18 novembre dernier face à la Côte d'Ivoire. Premiers émois internationaux pour lui qui est binational. Il aurait pu jouer pour la France, la Guinée ou encore la Guyane du fait de ses origines, mais il a été convaincu par le projet de la Guinée.
Quand j'étais petit, c'est vrai que je suivais beaucoup l'équipe de France, un petit peu moins la Guinée. Mais je pense que c'est important aussi de représenter son pays d'origine. Après, bien sûr que pour moi, il n'y a aucune chance pour que je sois sélectionné en équipe de France. J'ai toujours eu dans un coin de ma tête et espéré, quand j'étais jeune professionnel, jouer pour une équipe nationale. Donc c'était soit la Guyane, soit la Guinée, soit la France. Le premier contact a été fait avec un joueur que je connaissais très bien, Baïssa Massanko, qui évolue pour le Sili National depuis ça fait bientôt 6 ou 7 ans pour lui. Et puis il me disait toujours, viens. Et puis après, j'ai discuté avec Amadou Diaby, le vice-président de la fédération. Et puis voilà, je lui ai dit que j'étais prêt à rejoindre le Sili National. Donc pour moi, c'est important. Voilà, la famille est fière et c'est important pour moi de représenter ses couleurs. J'avais un choix à faire, mais c'était plus le choix du cœur, donc c'est ce que j'ai fait et je le regrette pas du tout en tout cas.
Voilà, désormais l'objectif pour Simon Fallet, c'est d'être sélectionné évidemment pour la phase finale de la CAN en Égypte. Il faudra convaincre Paul Put pour être dans les 23 heureux élus.
L'actualité du foot africain, c'est aussi les demi-finales aller de la Ligue des Champions qui avaient lieu ce week-end sur le continent. Des demi-finales marquées notamment par une petite déception pour le tout-puissant Mazembe.
Et les Congolais sont tombés sur une très solide équipe de l'Espérance de Tunis, vainqueur 1-0 hier à Rades grâce à un but de l'Algérien Youssef Belaïli, un succès logique des Espérants. Le reportage de Pascal Mangala.
Dans ce match, face à l'Espérance sportive de Tunis, Mazembe a eu affaire aussi à un public tunisien très présent. Chants, sifflets, fumigènes, coups de pétard depuis les gradins. Un vrai calvaire au stade Rades qui n'a pas connu une affluence des supporters du club africain, le grand rival de l'Espérance qui aurait pu apporter du soutien au TP. Sur le terrain, le coach Pamphile Mihayo a mis en place un schéma tactique avec 3 milieux récupérateurs, Kwame, Sinkala et Mikamiche, Mputu à la pointe de l'attaque. Une nouvelle manière de jouer qui a surpris Béchir, journaliste tunisien de la radio Tchems FM.
Je sens que Mazembe n'a jamais régressé. C'est toujours le tout puissant, c'est toujours une très très belle équipe, une équipe très agréable à voir jouer. Pour Mouleka, Mputu et Elias, c'est 13 buts en Ligue des Champions à E3, donc c'est un trio très très fort aujourd'hui. Et moi franchement, je pense que l'entraîneur de Mazembe a fait une erreur, celle de mettre Mouleka sur le flanc droit. J'aurais bien aimé voir Mouleka en pointe, Mputu derrière Mouleka, et là il aurait pu faire beaucoup de mal à l'Espérance sportive de Tunis.
À la pause, le score est tout de même de 0-0. Sylvain Gbou, l'international gardien ivoirien, est très décisif dans les perches mais sera surpris par la rapidité des espérantistes. 51e minute, sur une action de contre, Mohamed Youssef Belaïli ouvre le score. Puis Kabaso Tchongo est exclu à la 72e minute pour un deuxième carton jaune. Il aurait touché l'arbitre selon Bakary Papagassama, ce qui a choqué Robert Kidiaba, entraîneur des gardiens de Mazembe.
Moi, je suis un peu contre. C'est contre pour l'arbitrage. L'arbitrage n'était pas bon, n'était pas à la hauteur. Il a toujours été un arbitre international, mais ce qui vient de se passer aujourd'hui sur le terrain, non. Je reproche à l'arbitre parce qu'on a eu des fautes devant la surface de réparation de l'équipe adverse. Il n'a pas pu siffler. Et puis, il donnait le carton jaune seulement aux joueurs de Mazembe.
L'autre regret est pour Abdoulaye Sissoko, l'attaquant malien, l'ancien de l'Espérance, aujourd'hui dans le maillot de Mazembe. Il a suivi ce match dans le gradin.
J'avais au cœur de jouer ce match-là parce que c'est pas évident que tu quittes une équipe comme ça et puis tu reviens, donc tu joues pas. Donc même si j'ai touché mes collègues, c'est le choix du coach, donc il faut accepter.
Une victoire de Mazembe en Tunisie va une nouvelle fois se faire attendre. Joey Samampeko et ses coéquipiers s'inclinent 0-1 et c'est à Kamalondo qu'ils devront s'imposer avec 2 buts d'écart pour se qualifier en finale. Pascal Mangala, Tunis, RFI.
Et le match retour aura lieu donc à Lubumbashi samedi prochain. Dans l'autre demi-finale, les Marocains du Wydad Casablanca l'ont emporté 2-1 sur les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns. Et puis un mot des demi-finales aller de la Coupe de la Confédération. Aujourd'hui, les Tunisiens du CS Sfaxien ont dominé la Renaissance de Berkane 2-0. De son côté, le Zamalek a battu l'Étoile du Sahel 1-0.
Direction maintenant la Tanzanie, Cédric, où la CAN des moins de 17 ans a été remportée aujourd'hui par le Cameroun.
Oui, ça faisait 16 ans qu'il ne s'était pas imposé dans cette catégorie. Le Cameroun qui a dominé la Guinée en finale 0-0 mais 5 tirs au but à 3. Ça se passait au National Stadium de Dar es Salaam sous les yeux de Tiernoya Diallo. Bonsoir Tiernoya.
Bonsoir Cédric et bonsoir à toutes et à tous.
Alors c'est donc le Cameroun qui a pris le meilleur sur la Guinée au bout d'une finale étriquée.
Oui Cédric, comme exactement en demi-finale, les Camerounais, les jeunes Camerounais n'ont pas tremblé au tir au but 5-3 avec après un score de 0-0 pour les 90 minutes, parce que ce qu'il faut rappeler c'est qu'il n'y a pas de prolongation au niveau de cette CAN des cadets après les 90 minutes. S'il y a un score de parité, on passe directement au tir au but. À ce jeu-là, c'est les jeunes Camerounais qui s'imposent par 5 tirs réussis contre 3 après donc 2003. Le Cameroun est à nouveau sur le toit de l'Afrique, mais ce qu'il faut surtout dire, c'est que les Lionceaux n'ont pas volé leur sacre, et car pour cette finale, ils ont eu les meilleures occasions et auraient même pu, on va dire, conclure l'affaire avant même la fin de la rencontre, mais maladresse aidant, ils n'ont pas pu, ils ont dû donc pousser jusqu'au tir au but.
Alors voilà, c'est donc remporté par le Cameroun. Pour la Guinée, c'est une grosse déception, elle qui voulait prendre sa revanche après sa défaite en match de poule. C'est une nouvelle occasion manquée d'être titrée.
Nouvelle occasion, plutôt une occasion, parce que c'est vrai que la Guinée n'arrive pas souvent en finale, d'où la déception du camp guinéen, même si elle n'a pas trop à rougir de cette deuxième place après 2 échecs en demi-finale lors des 2 dernières éditions, lors des 2 précédentes éditions. Le Sidi a montré beaucoup de caractère, hein, pas trop de regrets, et on sait que les Camerounais se sont créés les meilleures occasions, même si dès la 52e minute, le sélectionneur guinéen Mohamed Malia Camara a dû composer sans Al-Ghassim Ba, son meneur d'hommes sur le terrain et surtout son atout offensif numéro 1, le jeune Guinéen blessé à l'entraînement samedi après-midi. Donc la dernière séance a dû sortir juste après le retour des vestiaires. C'est donc une performance plutôt encourageante pour le Sili Cadet.
À voir donc peut-être dans les prochaines éditions. Alors cette CAN des moins de 17 ans est donc terminée. C'est peut-être l'occasion de faire un bilan de la compétition.
Écoutez Cédric, une bonne organisation déjà. La CAN U17 s'est déroulée sans... Quoique, même s'il faut déplorer l'absence du public, le National Stadium de et le Chamanzi ont sonné désespérément creux, surtout après l'élimination de l'équipe nationale, les Taifas locaux qui ont été sortis dès le premier tour. Sinon que le Nigeria, qui faisait son retour à la CAN, n'a pas fait mieux qu'une 4e place. On sait que le Nigeria, c'est une mastodonte en Afrique, 2 fois champion d'Afrique, 5 fois champion du monde. Le Nigeria n'a pas fait mieux qu'une 4e place. Et que l'Angola, par exemple, a laissé entrevoir de très très belles choses, Cédric. Et puis cette histoire de test IRM et des soupçons matérialisés par les réserves du Sénégal et du Maroc contre la Guinée et le Cameroun auront un peu terni l'ambiance, mais globalement ce fut quand même une belle fête de la CAN.
Eh bien en tout cas, merci Tiernoya Diallo d'avoir suivi la compétition pour RFI, et puis bon retour sur Conakry.
Merci beaucoup.
À bientôt, Tiernoya dans Mondial Sport. Et le Cameroun qui aura peut-être une nouvelle occasion de se réjouir en octobre, ce sera au Brésil car il est qualifié pour le Mondial de la catégorie, tout comme la Guinée, mais aussi l'Angola et le Nigeria, les 2 demi-finalistes.
Merci Cédric de Oliveira, merci à tous pour votre fidélité. C'est la fin de Mondial Sport et une nouvelle semaine qui commence demain avec ce lundi aux commandes de Radio Foot International, Hugo Moissonnier.